Bonjour, émission Araga dirigée par Kamaridir. Ma chronique, revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga hana fi Idaat Galer.
L'émission Haraga, la voix des sans voix, des échoués de la vie. Elle fait appel à la rue qui la réinterpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
Et c'est une revue de presse halal sur des sujets haram. Wallah al-Azim.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haraga de Marseille. Bakhir al-Haraga.
L'émission phare de Radio Galère. Tous les jeudis
de 16 à 18 heures, mais c'est à la rabia hatta sa sadi sa. Khawti, khwatati, azul fellaoun, salam, bonjour, bonsoir, ahlan wa sahlan. Marahba bikoum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien et votre famille. On est le jeudi 29 mai 2025. Je dis bien 29 mai 2025 et on est heureux d'être parmi vous. Et merci de nous suivre sur les ondes de Radio Galère au 88.4 FM dans l'émission Haraga. D'abord, toutes nos pensées aux enfants palestiniens brûlés par l'armée sioniste d'Israël. Vous savez, on est au 608e jour de massacre, de déportation, d'extermination, de déplacement du peuple palestinien dans leur propre terre, Yelchawa. Feed your home. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, de vous rajoute comme monstruosité commis par le même peuple juif qui a connu le pire? L'armée sioniste d'Israël a commis l'irréparable, Yelchawa. Ad'iou l'chab falastini, ou l'esmah ou l'esh. Donc, sans tarder, voici les infos de la semaine suivies du micro-trottoir. Donc voilà, vous allez suivre le micro-trottoir qu'on a réalisé dimanche passé. Et vous savez que chaque dimanche, on est là pour soutenir la présence Tana, le stylo, l'image, du sang, soutenir le peuple palestinien qui est en train de souffrir le martyr. Plus de 230 000 maghrébins et surtout algériens qui sont stationnés en sud, mais bougez-vous. Hada wach habit nqoul lkoum. Koulou le grillier, ou darbou le pizza, ou bravo alaykoum.
واش تيقولوا فينا
اه يا الله
ام الملك اش تيقولوا فينا
اه يا الله
ام الملك وصلات على نبينا
اه يا الله
ام الملك صلوا على نبينا يا يا وا
حامل حمل
اه يا الله
حامل مالي والواد حامل حمل
اه يا الله
حامل مالي ونقطعو بسفينة
اه يا الله
حامل مالي
وقطعينو بشالوتي
اه يا الله
D'abord, je veux remercier les collectifs, les associations et vous, citoyennes, citoyens marseillais, qui depuis des mois et des mois vous mobilisez chaque semaine. Et je veux vous dire qu'il faut qu'on soit encore mobilisés plus nombreuses et plus nombreux en ce moment. Parce que la semaine dernière, le cabinet du gouvernement d'extrême droite israélien a adopté un plan qui vise la conquête totale de la bande de Gaza et le nettoyage ethnique, l'expulsion forcée de 2 millions de personnes qui sont aujourd'hui menacées de disparition, la mort de plusieurs dizaines de milliers de civils qui sont déjà morts et d'autres qui sont encore menacés par la poursuite des bombardements israéliens.
En début de semaine, il n'y a plus de micro, mais c'est pas grave, vous m'entendez ou pas ?
Emmanuel Bompard, de la France Insoumise, parti dont les élus subissent de nombreuses pressions et d'accusations d'apologie du terrorisme, parce qu'ils défendent les Gazaouis et les Palestiniens de Cisjordanie occupés, massacrés par le pouvoir génocidaire israélien de Netanyahou et de son parti suprémaciste d'extrême droite qui ont décidé de raser la bande de Gaza et d'expulser 2,5 millions d'êtres humains qu'ils appellent des animaux hors de leur terre d'origine. 80% des Gazaouis sont des réfugiés de la Nakba de 1948.
Il y en a un autre, merci. En début de semaine, vous avez peut-être vu un rapport de l'ONU qui disait que 15 000 bébés étaient menacés de famine dans les prochains jours. Ça, c'est la réalité de la situation de ce qui se passe à Gaza. Et depuis plusieurs jours, on entend désormais, y compris dans la bouche de ceux qui initialement parlaient de soutien inconditionnel à Israël, on entend des mots de condamnation de ce qui se passe à Gaza. Et moi, je suis venu ici vous dire que ce ne sont pas des mots qui permettent d'arrêter un génocide, ce sont des actes qui permettent d'arrêter un génocide. Et donc, si on doit se mobiliser, c'est pour dire que les mots et les déclarations, ça ne suffit pas, et que désormais, on attend du président de la République, du gouvernement, de celles et ceux qui sont à des positions de responsabilité, on attend des actes. On n'attend pas seulement des mots. On attend que soit décrété un embargo total sur les livraisons d'armes à l'armée israélienne. On entend que soit décidé d'infliger des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou et contre les hauts dignitaires du gouvernement israélien. On attend que soit décidée immédiatement la suspension de toutes les collaborations économiques et commerciales entre la France, l'Union européenne et l'État d'Israël. On attend que soit décidée immédiatement, et pas au mois de juin, au mois de juillet, ou je ne sais quand, la reconnaissance de l'État de Palestine, comme ont déjà fait une majorité des États dans le monde. Et je veux vous dire qu'on est au moment où il faut amplifier la mobilisation parce que les lignes sont en train de bouger. Cette semaine, pour la première fois, a été utilisé le mot de génocide dans l'enceinte du Parlement européen par un dirigeant d'un État, c'était la présidente de Slovénie, qui pour la première fois a dit « il y a un génocide à Gaza ». En début de semaine, le gouvernement suédois a dit qu'il fallait infliger des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. C'est la première fois qu'un État européen prend position sur ce sujet. Et la France doit maintenant faire de même. Elle doit dire qu'il faut des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. Et pour la première fois cette semaine, une majorité des États européens ont dit qu'il fallait réviser l'accord d'association économique. Alors c'est insuffisant, une révision. Il n'y a pas besoin de le réviser, évidemment, il faut le suspendre. Mais c'est la preuve que les lignes bougent. Et si les lignes bougent, c'est parce qu'on est mobilisé partout dans le monde, parce qu'on est mobilisé en France, qu'on est mobilisé partout en Europe, que la population, elle est en train, petit à petit, de gagner la bataille. Alors évidemment, c'est trop tardif. Alors évidemment, il y a déjà eu trop de souffrances, trop de morts. Mais c'est le moment ou jamais pour amplifier la mobilisation et faire en sorte qu'il soit mis fin au génocide aujourd'hui en cours à Gaza. Alors je vous invite à poursuivre votre mobilisation. Et en tout cas, vous pouvez compter sur notre soutien, sur notre détermination. Depuis des mois et des mois, chaque semaine à l'Assemblée nationale, et vous pouvez regarder, chaque semaine à l'Assemblée nationale, nous utilisons le mardi à 15h, le moment des questions au gouvernement, pour interpeller le gouvernement. On l'a encore fait mardi, où la présidente de mon groupe parlementaire, Mathilde Panot, a interpellé le Premier ministre sur ce sujet. Et on continuera chaque semaine à interpeller le gouvernement sur ce sujet, jusqu'à la fin du génocide à Gaza, jusqu'à la reconnaissance de l'État de Palestine, jusqu'à la fin du génocide à Gaza, jusqu'à la reconnaissance de l'État de Palestine, jusqu'au respect plein et entier du droit international. Voilà ce que nous allons continuer à défendre. Et on va le faire aussi en portant votre parole. Merci de votre mobilisation. Rendez-vous dimanche, rendez-vous dans la rue à chaque fois que c'est possible. Merci beaucoup.
Bonjour, Cheidati Swali. Élue à la mairie du 15-16, en charge de la solidarité et la lutte contre les exclusions et l'écologie populaire, et également écologie. Alors la lettre, demande de suspension du jumelage entre Marseille et Haïfa. En tant qu'élue marseillaise, écologiste et profondément humaniste, je vous adresse cette lettre pour vous demander solennellement de suspendre le jumelage entre la ville de Marseille et celle de Haïfa. Face à l'horreur des événements en Palestine, guerre, famine, destructive massive, souffrance humaine inacceptable, notre ville ne peut rester silencieuse. Monsieur le maire, en tant qu'élu marseillaise, écologiste et profondément humaniste, je vous adresse cette lettre pour vous demander solennellement de suspendre le jumelage entre la ville de Marseille et celle de Haïfa. Face à l'horreur des événements en Palestine, guerre, famine, destruction massive, souffrance humaine inacceptable, notre ville ne peut rester silencieuse. Marseille, riche de son histoire de solidarité, de résistance et de paix, se doit de réagir. Depuis octobre 2023, plus de 62 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, dont 17 500 enfants et plus de 11 000 femmes. On compte plus de 121 000 blessés, 1,7 million de personnes déplacées et une grande partie du territoire réduite en ruines. Les Nations Unies et les nombreuses ONG alertent aujourd'hui sur une famine imminente. À ce jour, plus de 14 000 enfants de moins de 5 ans risquent de mourir dans 48 heures, faute d'aide humanitaire suffisante. Dans un tel contexte, il n'est plus possible pour Marseille de se maintenir un jumelage avec Haïfa sans porter atteinte à ses propres valeurs. D'autres pays et collectivités ont déjà pris leurs responsabilités. La Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël, tandis que la Colombie, l'Afrique du Sud ou encore le Belize ont suspendu ou réévalué leurs liens. En France, la ville de Gennevilliers a suspendu sa coopération avec Kiryat Yam, dénonçant l'ampleur des crimes commis à Gaza. Notre propre président de la République, aux côtés du Royaume-Uni et du Canada, a récemment exprimé une inflexion dans sa position, soulignant que nous atteignons un point de bascule morale. Nous ne pouvons plus tolérer l'intolérable. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, a dit avec justesse « À Gaza, on laisse se dérouler un génocide sans rien faire ». En tant qu'élu écologiste, je m'inscris pleinement dans cette analyse que je porte depuis le début des bombardements. Je la porte aux côtés des Marseillaises et des Marseillais qui, chaque semaine, battent le pavé pour crier justice pour les enfants, les familles, les survivants de Gaza. Cette clameur populaire, douloureuse et digne, ne peut rester ignorée plus longtemps. Marseille est une ville monde, une ville carrefour, une ville métaphore, que le poète Édouard Glissant décrivait comme porteuse de la relation. Elle a toujours incarné la fraternité entre les peuples. Suspendre ce jumelage serait un acte de conscience, un message d'espoir et de justice. Au nom des enfants, des femmes et des civils victimes de cette guerre, c'est aussi affirmer fermement notre attachement au droit international, à la dignité humaine et à la paix. Je suis convaincue que cette décision serait comprise, soutenue et portée avec force par de nombreux Marseillais et Marseillaises. Monsieur le maire, vous êtes le garant de cette histoire fraternelle que notre ville incarne. C'est avec tout le cœur que mérite ce combat que je vous remercie de votre écoute. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de ma haute considération. Swalihi Shahidati.
Rappelez-moi votre nom et mouvement ou parti.
Alors, Shahidati Swalihi, parti Les Écologistes.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour Samuel.
Bonjour très cher ami et bonjour les Marseillais. Je voulais vous partager avec vous pour être sûr que vous ayez bien compris le stratagème. Le fait que dans les médias des riches coloniaux racistes et avec les Retailleau et compagnie de la bourgeoisie décadente, le fait de ne parle que des Noirs, des Arabes, des musulmans, du voile, de machin, gna 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 pour tout. Et c'est le but de vous faire saturer, que en fait on ne parle pas de vos problèmes, de l'école qui ne fonctionne pas, du travail que vous n'aurez pas le mois prochain parce que l'entreprise a été vendue, parce qu'ils n'ont pas sorti les entreprises des PME, TPE du marché européen, de l'électricité, etc., etc. Mais ils vous parlent toujours des Noirs et des Arabes, des musulmans et des musulmans et des musulmans, pour qu'à un moment en fait vous cédiez et que vous dites « Oh, mais ils font chier, hein, moi je veux qu'on parle de mes problèmes ». Ne tombez pas dans ce piège, j'essaie juste de vous prévenir du fond de mon cœur. Je sais que c'est pas vous qui êtes bêtes les gens, c'est le système et les médias qui est pervers. Mais heureusement, il y a encore des Idir et des Camards qui ont l'âme au cœur. Voilà, donc prenez soin de vous, éteignez vos télés, vivez, allez à la rencontre des gens. C'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir une opinion claire qui s'appartient à toi-même. Tu n'es pas un être humain si tu me répètes les discours des médias. Et c'est ça que je voulais transmettre.
Voilà, le message de Samuel est passé. Merci Samuel.
Merci à toi.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I have witnessed your suffering as the battle.
L'émission Théo pour les règles de Mbroka Ahmeda, tu as dit le coto, Hanna Meljbel Hadak, Rana, Petrig, la gare, ou la Naya, and le CPR, ou Kunuel Kawa, Mana, Mastisimo, Adel Hessa, Taïdir. كل يوم الخميس من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساء. تشاو تشاو تشاو
بوس خو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي العزيز.
انت يا رحم باب واش عندك هنا في يدك؟ واش كاين
عندي؟ ولاد ولادي وحبابي ودمي ولحمي. انت 50% حبابي و 70% حرين كيما حنايا.
صح. انت دبر مين؟ مش من الجهه؟
انا وليد الجزائر والباب الواد مالاكوف.
صح.
وعايش في جراسولي في كاسينوخ. نزي كاع ولاد الحوم تيجوا يحبطوا معايا.
صح
صح. وحبابي اللي يعرفوني مقيدش حاكم
تاع شعبي انت مالا.
الحمد زاهي. لله وليد القصبه
زاهي ولا
زاهي توجو
عزيوز؟
لا دحمان. دحمان وماجد مسكوت. والحراشي و لي زونسيان. نعم اللي يعرفوا اللي يعرفونا
القصبة. ما توحش القصبة؟
توحد كاع البلاد ماشي غير القصبة. بلادنا حرة وحنينة علينا.
دومونك لالجيري
صافي 4 سنين محبوس مي ما تخممش خويا فهمت. المستقبل تاعنا راهو تماك
ان شاء الله. لا لا
فهمت. ونرفدوا حبابنا نرفدوا ولاد حومتنا نرفدوا جيراننا ما نطلقوا حتى واحد اللي مخصوص نقدروه اللهم بارك اللي ما نقدروش ربي يجيب خيره ان شاء الله. ما انا هنا رانا معاهم.
التصويره هذه تفكرك لانديبوندونس تاع الجيري نو؟
تفكرني بزاف بزاف حوايج.
واش تفكرك؟
لانديبوندونس الحجر الدوليه السياسيه والعقوبه اللي عندهم
العصابه
الخصوصيه عصابه خصوصيه وماديه فوالا. وان شاء الله سيدنا تيبون بريزيدون تاعنا يعطي لهم حقهم ويجيب لهم حقهم وحنا انا معاه رانا موراه. الشعب سواء في الغربه ولا في البلاد ولا في كل مكان رانا معاك معاك يا فلسطين معاك يا الحباب والارجيري تبعكم للممات والله
يا محل الجود المن والعطاء يا حديث لساني بالليل والنهار مسل كنيما لعار للوطن يا مول سنين بالمعمورة والقفار العمد والخطا لا تعذب روحي وجوارحي بنار لا تعذب روحي وجوارحي بنار
مات. والله اكبر.
هذه انت سي لا بروميير فوا اللي جيت لهنا ولا عندك بزاف؟
لا سي لا دوزيام فوا خويا. فوالا لحد الباجي لحد اللي فات جيت ما ريحش بزاف ما اليوم نريح حتى الاخر ان شاء الله.
نعاودوا نولوا للقصبه.
نعم
باسكو على بالي انت راك قصباجي.
حر.
اسكو نجمو نتكلموا شويه على الشعبي؟ على الزاهي عزيوز.
نهضروا على حبيت خويا.
انت تحب بزاف عزيوز الزاهي.
مفتوح في الفكر وفي القلب.
من نهار مات عمار زاهي اسكو يا دي جون كي لون بلاسي؟
كاين مي ماشي كيما هو خويا الاصيل ماشي كيما المثيل. فهمت. المثيل عنده قصيصته من سمعوه خاش عنده الهضره كيما اللي سبقونا عندهم توجور حكايه لقصيده والقصيده فيها معنى ولي يفهم يا الفهم والاحمر يبات يخمم حاجه الهضره.
ذكرتني في الغناء تاع قروابي
تاع نعم.
البهيم اللي يخدم هذيك لا شونسون جي اوبلي
نعم.
البهيم اللي خرج من الصباح هو مسكين.
ايه مي عندها مده هذيك هذه قديمه.
شوف رانا نتكلموا على اللي ماتوا اللي خلاو اطار سون ليسيان.
خلاو كاين شبيبه كاين شبيبه المستقبل في الجزائر كاين سورتو في الانواع وفي الموسيقى في التقاليد في الاصيل. ولينا الجزيره تاعنا ما نكروش منين جينا ومن انا رايحين ما عرفوا طريقنا وربي يسترنا ان شاء الله.
كون نحكي لك كون نقول لك حاجه اسكو تنجم تكلم لنا على العرس اللي دارهم عمار زاهي في ارجيما؟
الله الله عليهم. فهمت. كل عرس عنده حكايته وعنده قصيصته سورتو اللي داروا اللي جاب عمار زاهي ما جابوش في باطل. فهمت. جابوا باش ينوع ويمتع ويسمع ولي يفهم اللهم بارك ولي ما يفهمش يبات يخبم.
صح. انت حضرت بزاف الالي.
هضرة الآلي الشعبي كلش المناعي الحوزي فوالا الأصل 30 سنة في الجزائر خويا جيت لهنا كان عندي 25 دوكا راني ب 50
جيت البابور ولا حركت
لا لا جيت الكوارتي خويا عندي الحمد لله لا إله إلا الله رسول الله ربي عطانا الخير عندي يما قبرية مسلمة الله يرحمها واسمها لالا زوينة
اوكي
وباسمها بالقبرية واسمها لوسيان جارمان باش هكا يفعروا
تفكرني في لوسات حاج علي
اي والله
لوسات حاج علي دارت الكيرة يا
محايم دارت ما مشيعه في الجزائر
الله يرحمهم
هما داروا حقهم فهمت كما نقولوا داروا شرفهم مهما كان مهما كان الثمن
سي قراصة ولا رانا احنا حيين
قراص عليهم وقراص على ربي سبحانه مولانا ربي هو اللي صح والدينا وراونا الطريق وراونا الطبايا والاصاليط وراونا الشرف والدين فهمت ولي نساه او غلط ولي تفكروا ان شاء الله ربي يهديه ويستقبل في الدين وفي الجنه ان شاء الله
كنا تلاقينا هنا في المانيف تاع لي باليستينيان
نعم في بورديكس في مارسي
تاعك واش تمثل فلسطين ليك نتايا
تمثل مون دوزيام بي
صح
مون دوزيام بي نخلي له داري وخلي له همي وخلي له كلش ولا حب ما خليوش همي نخلي له الراحه نعطي له داري ولا حب نعطي له دمي فهم يستاهلوها كاع احبابنا العرب يستاهلوا دمنا سورتو لي عاصير ولي عاصير معصروه كيما عصرونا
العاصر من عاصا
العاصر من عصرو مي الحمد لله خويا رانا متقفين انا تربينا وكبرنا ونفهموا بزاف حوايج كي كنا صغار كنا بالك بهلولين شويه جايحين من مع الوقت فقنا وكبرنا والحمد لله حبابنا راهم هنايا والشعب راهم معانا والدوله راهي مورانا
ما قلتليش كيف كيسموك ولا حبيت
تمدى وسمني مقيدش حاكم
وهاولي خويا ما نكذبش على خويا لابون ديسيني مقيدش
نعم 81 فاميلتي خويا فهم فاميلتي وما نكذبش خويا ها هاوليك
لا ما
باش تشوف لا خويا لا دمي ولحمي لا صفي هاني هاوليك خو فيف لارجيري فهم فيف لارجيري وفيف فلسطين نو فخير فهمت وهاوليك اسمي خضر عندي باسبور فرنسي هاوليك بالكارت ما لاباليش به فهمت الصح في بابا فهمت ويما عزيزه قالت
ماشي
بيزوج وبابا مجاهد الله يرحمه جهاد مام هنا في فرنسا وهاوليك اسمي خويا
مقيدش ينو في غابلي لا بون ديسيني مقيدش في البلاد هاو ايكوت
ما عندي قياده مقيدش قاني في الجيش
خلوها لك
لازم يسمعوها اخويا رانا هنا
مقيدش est la première revue de bande dessinée algérienne. Créé en février 1969 par Aram, Ahmed Haroun, Maz et Slim. Elle est éditée en français par la Société Nationale d'Édition et de Diffusion. Elle cesse de paraître en 1973. Une version en arabe est publiée de 1978 à 1982, mais avec moins de succès. Ahmed Haroun y présente un personnage de djinn, Mqidish, petit débrouillard qui vainc plus puissant que lui. Les collaborateurs Mustafa Tidani, Mahfoud Haider, Rahmon Mustafa, Tennani, Ardouan Asari, Slimane Zigidour, Ahmed Hebrit, Farhat Baghdadi, Oulman, Khiari, Aïd Hamoud, Riyad Abdel Nasser et Shiker.
Amsia, Zara Hamra.
Chiffon.
Maalish, Khouya. Mais Chiffon, Mkhimtou.
Ça fait plaisir.
Voilà.
Chiffon ou la Chinawa?
لا شنو ناكلوا الروز معاهم كلاونا كاع جابونا الكوكرا معاهم صح ولا لا صمونا لبلادنا داونا الكوكرا
باسكو تاو انا كاع حبوا يولوا مدير
خاش على حنا نخدموا بالقهوه ما نخدموش باليد حاجه ما يستاهلهاش كاين رجال كاين اصيل وشريف والكثره لا الحمد لله بابا رباني بالعصا وبالفهامه 13 سنه بديت نخدم خويا كنت بحري في الجزائر في البور في الميناء ونسلم على احبابنا لهم تماك
واش من غنيه تحب نديرو لك في هذا الريبورتاج؟
اللي حبيت خويا، اللي تمنيت، كاع غنى فيها حكايه وفيها معنى.
ريحو بزاف يا
خويا. وعلاش لا لا؟ وعلاش لا لا؟ فوالا
يا محل الجودي.
ايه صح صح، وجيب الاصل كاع. نعم. عندك الحق خويا.
هي خويا، بارك الله فيك خويا.
فيك بركه.
ويعطيك الصحه كي رجعت لي الكلام.
صحه ولا هنا
خويا. وراك تقبلتني خويا.
امين اجمعين، نستقبلك من في داري خويا ولا حبيت.
بارك الله فيك. واش تقول لي جون تاعنا اللي راهم حارقين هنايا مساك اللي راهم يدوروا يرقدوا في الكرتون؟
الاحباب اتكلوا على ربي، وخذيك الخدعه والسرقه والخطفه بيناتكم، تلافدوا وتسامحوا، خلينا من الغدره والنكره والذكره. الحساد ما يربح، الغيور ما يجيب حقه، لازم التلاف بيناتنا، والصح اتحاد، اتحاد قوة، هاي تبان.
ميرسي خو.
ميرسي مون خير، وشكرا على الميكرو والعزيز.
لهذي عن مام غام الحباب وفات عني مسرور غابو ولا بانو. لهذي عن مام غام الحباب وفات عني مسرور غابو ولا بانو. يا مالي مغات لا ترجعني هات، والقلب اللي ولا ودع سلوانو. جسمي من غلق فاعد والروح فنات، عاقبني الزمان فقدو محانو. ريت بدور التمام في سماه ومانو، دار علي الغرام محال محز مقاهي الفهم. مملوك ضحيت الغلام سبابي سابغش فر عين العالم. يا الفهم عذرا مسبوغة النيام من العشق الريام، لو كان يسلم. يا الفهم معلاش يطول الكلام، ودي مسبوغة النيام. جار عليا غرامهم وملكني يا اهل الهوى،
وملكني يا اهل الهوى.
ما نعشق حد غيرهم مضرور وخاطرين كوا،
مضرور وخاطري قوى بدليلي ما نسيتهم هي هات غرامهم قوى هي هات غرامهم قوى اللي ينسى الحبيب ناس بدين الدم آه يا الباهر ويجرب لي عبد الغرام يرحم عنه المنام يحرم عنه المنام يبات يخم آه يا الفهم مثل المضروب بالسهام اللي مولوع ينشكر ينطق في الضيق والزحام ينطق في الضيق والزحام والغير علاش ينذكر في الدنيا لا يلوم قام في الدنيا لا يلوم قام من لا عشق من لا يعشق ولا سهر ما يفضح ما يفضح سر العوام ما يفضح سر العوام سلك كميه لا تعيدوا البنادم لا تنم لا تمنك الطعام اجبل منه لا دوريه مراس ماهية اهرم منه مسير عام مسير عام بالبنات يدور وين يستقر يدور وين يستقر هي مزه وليه جات حبيبه جاه من السفر حبيبه جاه من السفر فرجا ونغايم الدهات العود يصيح والوتر العود يصيح والوتر والساقي عساس في المسايل متحزم في الليالي النو الظلام وش مع موقود يولول وش مع موقود يولول يطلاطم والكاس يدور بالمدام والضامل فيك بوعلام مزين طلت الحبيب حين يجيني من الصفر
حين يجيني من الصفر
الحاسد لا يلو نصيب خليه يراقب الخبر
خليه يراقب الخبر
صوري بنيانه صعيب من يتعداه ينعقر من يتعداه ينعقر وين البدعي بن صالو يتقدم
آه يا الفهم
ما طال الدهر بالدوام اللي فعلو رذيل وجهو ما يحشم
آه يا الفهم
نوصك في خلطة وحرام
L'affaire Gibrel et fils. À Marseille, l'ancien adjoint au sport, jugé pour violence. Ce jour-là, la démocratie était à terre. 24 mois de prison avec sursis ont été requis contre Sébastien Gibrel, présent avec son père, l'ex-député Henri Gibrel, lors de l'agression en janvier de deux militants LFI qui avaient arraché les affiches à son effigie dans les quartiers nord de Marseille. Sébastien Gibrel n'aurait pas dû souhaiter la bonne année aux habitants des quartiers nord 15 et 16e arrondissement de Marseille. Du moins, pas en placardant le quartier d'affiches à son effigie, soupire à la barre l'élu socialiste de 45 ans qui n'imaginait pas que cet usage, un rien dissué, le mènerait ce jeudi 22 mai devant le tribunal correctionnel de Marseille. L'affaire lui avait déjà coûté 48 heures de garde à vue et surtout la perte de sa délégation au sport à la ville de Marseille en mars. Un militant qui a assisté au jugement témoigne.
Je suis avec un militant de gauche, la vraie gauche. Hein.
La vraie gauche.
Donc il a assisté,
vous comprendrez, voilà.
Pourquoi ? Donc il a assisté au jugement du voyou, du fils de Gibrayel.
Alors,
comment ça s'est passé, puisque
pas
vous avez
exactement
assisté ?
C'était le jugement de 5 personnes qui ont participé au lynchage de Johan Ayad, en particulier, et de 2 de ses collègues. Voilà. Plus exactement. Dont un en particulier, Caconnier, et les Gibrayel père et fils, qui ont donné, on voit bien dans les vidéos qui ont été projetées lors du procès, on voit très bien, avec plusieurs caméras autour de la place Raphaël, comment se sont passées les choses de façon chronologique et précise. Voilà. Donc, on voit bien, au départ, on voit des gens de la France Insoumise qui décrochent un millefeuille d'affiches. Tu sais ce que c'est ? Quand il y a des millefeuilles d'affiches, tu fais ça, ça s'arrache tout. Ils les arrachent, ils les prennent et les mettent proprement dans les poubelles pour pouvoir après coller leurs affiches à eux. Donc on voit très bien ça dans les images. Et puis, d'un coup, on voit arriver en courant des équipes du Parti Socialiste de l'Estac et Saint-Henri qui faisaient un barbecue apparemment au stade de Saint-Henri, qui arrive en courant et qui de suite commence à agresser ceux qui ont décroché les affiches de Sébastien Gibrayel. Il faut savoir que Saint-Henri, à côté d'Alhambra, tu vois où c'est, il y a la poste, il y a l'école à côté de la poste en face, qui est finie dans une impasse. Là, c'est le quartier général du Parti Socialiste de M. Gibrayel. Donc, ces gens-là de la LFI qui ne connaissent pas, c'est des tout jeunes, ils ne savaient pas que c'était là. Et donc, ils se sont sentis vexés. Et en même temps, comme le Parti Socialiste faisait une inauguration dans un stade juste à côté, ils sont arrivés en force, les Gibrayel ont rappliqué, ainsi que d'autres personnes de leur équipe. Et ils ont continué. Quand ça arrivait, les élus Gibrayel, on n'a pas essayé que ça allait se calmer. Au contraire, ils se sont enflammés les nervis de Gibrayel. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu dans les images. Moi, personnellement, quand je suis arrivé à la salle du tribunal, chercher une place pour m'asseoir, ça, et puis j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont regardé drôlement. Je connais pas de vue, mais je ne savais pas qui ils étaient. D'accord ? Et à un moment donné, moi j'ai pris mon appareil photo pour me faire un selfie. Voilà. Et ils ont pensé que je les ai pris en photo à eux. Et donc ils m'ont réclamé mon portable. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous dites ? Je me suis fait un selfie, c'est tout. Et c'est après que j'ai appris que c'était de l'équipe à Gibrayel, des gros bras de Gibrayel, et qui ne supportait pas que je me prenne en photo. Bref.
Bah attends, décris-moi ces bras. Est-ce que c'était des blacks, des arabes?
Un black et un arabe.
Okay.
Ensuite, c'est après que j'ai appris ils sont cités comme témoins. Ces deux-là, ils sont cités comme témoins parce que la clique à Gibrayel les a cités comme témoins pour dire qu'ils avaient vu la victime avoir un couteau et un cutter. Mais après, à la fin, quand ils sont passés à la barre, en dernier, ils n'ont pas osé aller jusque-là parce qu'ils ont juré sur l'honneur. Et là, il a fallu qu'ils disent que, bon, eux, ils n'ont pas vu, mais on leur a dit qu'ils avaient un couteau. Parce qu'ils voulaient justifier ce tabassage par le fait qu'ils croyaient qu'ils avaient un couteau et un cutter. Voilà. Les mensonges, heureusement, la procureure a fait son boulot, voilà. Il demande des preuves, dans toutes choses, il faut des preuves. Là, il y avait des vidéos qui montraient non seulement M. Choulac, soi-disant médiateur, M. Lies Choulac, médiateur chargé de médiateur, qui allait agresser, continuer à agresser Ayad, qui avait les mains tout le long, les mains en l'air comme ça, de long, à aucun moment il n'a porté un coup, il s'est fait frapper. Et à un moment donné, on le voit Ayad roué de coups, tombé par terre, assis, et on voit les Jibrayel, père et fils, tourner la tête ailleurs. C'est moi, je savais qu'ils étaient, mais le courage qu'il a eu ce mec, incroyable. À aucun moment, il est resté toujours pacifique, toujours les mains levées. Donc, et malgré ça, ils ont affirmé que non, il était véhément que c'était lui, malgré les images. Il faudrait que tu les vois faire tourner les images. Enfin, bon, depuis 15 ans que je le connais. Donc, une fois, j'ai été chargé par la marche des femmes qui faisait d'être, comment ça s'appelle, service d'ordre. Bon, j'insiste un peu, mais j'accepte. Et donc, les femmes partent de la Porte d'Aix avec carré de tête, les femmes qui sont organisées. Et donc, moi, je suis chargé, voilà, de faciliter leur passage. Qui je vois arriver, se mettre devant la banderole de tête, Monsieur Jibrayel, Henri. Je vais, je lui dis, monsieur, excusez-moi, mais là, ma tête, c'est pour les femmes. Vous êtes bienvenus, mais allez derrière. Moi, connaissant un peu le Gus, je le suis des yeux. Il fait semblant de descendre, d'aller vers la queue, mais hop, il bifurque par la Porte d'Aix, et puis il remonte en haut de Charles Nédélec, et rabalote, il se met devant. Et je reviens, je lui dis, monsieur, il n'a pas osé m'envoyer ses gros bras, là. Puisqu'il y avait trop de monde et il y avait trop de flics et tout. Et une fois aussi, pareil, une réunion dans le 15e, 16e, un tour de table autour d'une table, et chacun son tour de parole, et on part. Et lui, non. Il voulait prendre la parole, ou il voulait comme il voulait. Alors on lui dit, non, monsieur, c'est pas votre tour. Ah ben, si c'est comme ça, je m'en vais, tout vexé. Il sort et il s'en va. Moi, je sors fumer ma cigarette. Il m'interpelle. Oh, jeune, viens, je te parler, viens. Il dit, monsieur, excusez-moi, on ne se connaît pas. Pourquoi vous permettez de m'appeler au jeune? Ouais, mais attends, je vais te parler, mais je vais t'expliquer. Tu vois, c'est moitié-moitié. Moitié, pour t'intimider, moitié, non, mais ça, tu vois, la technique.
Violent,
oui, voilà, attends. Mais avec moi, à l'époque, il peut utiliser, on était que tous les deux, il peut venir avec sa violence, hein, tu vois. Donc moi, maintenant, j'ai eu la pression, donc, de ces sbires depuis un moment, mais sauf qu'ils me connaissent et ils savent qu'il y a des gens qui me connaissent et que j'ai prévenu, si j'avais le moindre truc, s'il m'arrive quoi que ce soit, voyez les gros bras à Jibrayel. J'ai les noms, j'ai les photos, voilà. Monsieur, alors j'ai expliqué à un mec de BFM TV, qui est voilà, un petit jeune, qui voilà, et je lui ai expliqué, moi je dirais, jamais parlé avec un journaliste de CNews, bref, ou du GDD. Bon,
ouais.
Voilà, je comprends. Et je lui explique le système Jibrayel. Alors, je dis, comment ils arrivent encore à avoir autant de sbires? Ah, c'est là la question qu'il faut se poser, nom de Dieu. Parce qu'à un moment donné...
Il faut se poser la question à Samia Ghali.
Aussi, exact. Pas que. Donc, je vais un petit peu développer. C'est que M. Jibrayel, il a placé dans plein de collèges, comme il a en même temps conseiller départemental, il a placé des sbires à lui. Tous ces colleurs d'affiches, ils travaillent dans des collèges. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus besoin de concours pour entrer dans les collèges. Avant, c'était éducation nationale. Maintenant que c'est décentralisé, il n'y a plus besoin de concours. Et donc, vas-y, que je t'envoie. Okay,
oui.
Tu veux des noms? J'ai les noms, hein, de ce que je dis. J'ai les noms, je ne vais pas le dire spécialement, mais ils sont là où il faut, que si un jour il m'arrive quelque chose, parce que j'ai eu pas mal de pression, j'ai pas eu pas mal de coups de couteau dans le dos, maintenant, avec ce que j'ai vu hier, donc c'est pour ça que je voulais participer, et là, j'ai vu l'autre moitié des gros bras que je ne connaissais pas, et qui j'avais un petit peu des doutes. Maintenant, j'ai des certitudes. Voilà. Maintenant, donc, ils ont dit que oui, c'est un délit de ce qu'il a fait à notre cher ami, j'ai envie de dire ami, parce que pour son courage, un délit d'arracher les affiches. D'accord ? Alors, moi, maintenant, ce que je vais faire, dès que j'ai un moment de libre, je vais aller dans son fief et je vais arracher toutes les affiches du gibraïélisme, parce que le gibraïélisme a viré mafieux. A tourné avant, je prenais des précautions, tu vois. Maintenant, j'ai une certitude. C'est un cancer, ces gens-là. Ils ont... Et pourquoi il y a tant de gens, donc, qui encore, qui a une emprise sur eux? Parce qu'il les a placés. Il leur a donné un logement à l'autre, machin. Et maintenant, c'est des gens redevables. Alors, pourquoi? Moi, j'ai eu des approches. On m'a approché. Ça clique, m'a approché, ouais, mais... Oh, tu connais Henri, ouais, t'es un brave mec et tout. En parlant, ouais.
Hajj, on dit ça, c'est un hajj.
Voilà. Comment tu... Tu travailles dans le collège et tu, c'est pas Henri qui t'a enquillé? Je dis non, mon frère, moi. Moi, je suis rentré par concours, vrai concours, c'est tout. Je suis pas... Je dois rien ni aux socialistes, ni à Gibraïel. Je veux rien devoir à ces gens-là. Et comme ces gens-là, le gibraïélisme, ils détestent les gens qui ne lui sont pas redevables. Moi, j'ai dit, écoutez, messieurs, moi, je suis neutre, c'est pas mon ennemi. Mais eux, leur fonctionnement, eux, si tu n'es pas avec eux, tu es leur ennemi. Si tu, ils estiment que c'est leur fief, voilà leur fonctionnement. Je sais pas, c'est proche du système mafieux. Hein. Féodal, mafieux, appelle ça comme tu veux. Mais je me disais, bon, ah, tu exagères. Mais maintenant, c'est une certitude. Donc, c'est un truc. Et après, par contre, ce que j'ai apprécié hier, c'est que M. Gibraïel, fils, toujours arrogant, qu'on le voit arrogant, envoyer ses troupes, eh bien là, il s'est mis à pleurer, à sangloter. Pourquoi? Parce que ses enfants ont été embêtés par d'autres enfants en lui disant que c'est des méchants. Il a pleuré. Par contre, le père... Oh, moi j'ai 74 ans, je suis député, blablabla. Il répondait pas aux questions, quoi. Hein.
Il raconte sa vie, sa biographie.
Voilà, blablabla, le violent. Bon, après, même la procureure, quand elle a voulu parler, elle a été interrompue à plusieurs reprises par l'avocat des Gibraïel. Jusqu'à un moment où ça devenait insupportable. Même quand l'avocat de la victime plaidait, pareil. À un moment donné, l'assesseur du juge, il a dit, bon, maintenant, il l'a remis, bien cadré. Et après, mais, comment dire, mais, il a, parce que, pourquoi, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien contre, aucun élément. Alors, ils ont inventé une photo sortie de je ne sais où, ramassée, une affiche où on voit un tableau arraché comme ça, dans un autre endroit. Où il y avait, on voyait que, oui, manifestement, vous voyez, ça a été fait avec un couteau.
C'est un théâtre de rue, quoi.
Voilà. Non, alors, mais ça fait partie de la phase 1. Et c'est pour ça que la phase 2, ça a dégénéré. Non, il n'y a pas eu de phase 1. C'est de l'invention totale, parce que ce n'était pas horodaté. Donc, effectivement, ils ont blablaté. Et le juge, il a dit, bon, ça c'est... c'est du pif. Mais, ce qui est étonnant, cette capacité de mensonge, cette capacité encore qu'ils ont d'avoir du monde, une clique de gros bras, je ne sais pas comment ils sont alimentés. Maintenant, il faut dire un grand stop à tout ça. Il faut éradiquer ce gibraïélisme qui pourrit la démocratie. Quand on frappe des gens comme ça, moi j'ai collé des affiches dans ma jeunesse. J'en ai collé. On a eu des frictions avec les... Mais pas comme ça. Pas des trucs comme ça. Et le mec, il est seul, il fait comme ça, tu vois. Il les met en l'air et il continue. Et après, à la fin, mais après, voilà, à la fin, ils ont... Qu'est-ce que vous avez à rajouter, dit le juge, aux différents protagonistes. Un des principaux qui a frappé tout le long, il dit, bon, ben, je regrette. Bon, ils disent d'autres. C'est bien filmé et tout, que c'est lui qui cogne. Et il dit, et au Gibraïel, ah, non, on n'a rien à rajouter. À Choulac, hein, non, rien à rajouter. Voilà.
Voilà, c'était notre ami qui assistait, un grand militant,
après, bien
qui a assisté presque à tous les jugements des voyous. En commençant par l'effondrement de la rue d'Aubagne.
Exactement.
Si vous vous souvenez, il est déjà passé, il a raconté ce qui s'est passé. Il a assisté au jugement de ces 12 salopards, je ne sais pas combien il y avait. Et hier, c'est-à-dire mercredi, plutôt hier, on était jeudi.
Jusqu'à 22h.
Il y a eu le jugement de...
De l'affaire des gros bras des Gibrayel, du Parti Socialiste des 15e, 16e, qui ont frappé les colleurs d'affiches LFI.
Voilà. Donc il nous retrace tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. Et...
Sans aucun mensonge.
Voilà, sans aucun mensonge.
J'ai pas de raison de mentir, puisque à chaque fois, la réalité, elle est encore pire que la fiction. C'est...
Voilà. Ben, vive le roi est mort.
Non, mais je pense que... non, il n'est pas mort. Pour le père, oui, c'est mort.
C'est pas du père.
Ouais. Mais le fils, il faudrait que Payan ne le reprenne plus à la mairie. Parce qu'il a espoir de revenir comme adjoint au sport. Ça, c'est inadmissible. Messieurs, dames, si vous avez des enfants, ne les envoyez pas dans les trucs de sport gérés par Gibrayel.
Et à parce quel arrondissement
que dans, bah, lui, il est à la mairie de la centrale, mais principalement dans les arrondissements, l'arrondissement du 15e, 16e.
Ah.
C'est là-bas où il y a cette espèce de boxeur qui s'appelle, tout le monde, c'est dans le journal, Mohamed Aboud, qui est un grand champion de boxe.
Un grand hein.
Voilà. Et on le voit, je ne vais pas vous mentir. Peut-être que les
fait partie des bras, quoi.
Il fait partie de l'équipe à Gibrayel. Ah, voilà. Donc, c'est triste. C'est triste. Mais après, bon, il est jeune encore, mais c'est dommage. Parce qu'en fait, il a tout pris. C'est lui qui a tout pris, pratiquement. Ils sont défaussés sur lui. Tous les Gibrayel.
Voilà.
Et voilà.
On arrête là. Voilà.
« 80 ans après l'apparition du premier journal officiel imprimé à la Libération de Marseille, le nom de la Marseillaise sera désormais gravé dans le marbre cour d'Estienne d'Orve. Aux côtés du président et directeur éditorial du titre, Léo Purguet, le maire DVG de Marseille, Benoît Payan, a dévoilé ce mardi 27 mai la plaque dénominative. Elle ornera bientôt le parvis du bâtiment qui héberge toujours la rédaction du quotidien distribué dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, le Gard et l'Hérol. Écoutons d'abord Léo Purguet, juste après Benoît Payan.
Cher Benoît, mesdames et messieurs les maires, monsieur le maire de Septèmes-les-Vallons, cher André, monsieur le ministre, cher François, monsieur le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Marseille, cher Thierry, monsieur le sénateur des Bouches-du-Rhône, cher Jérémy, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le coordinateur national représentant Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, cher Igor, mesdames et messieurs les maires de secteur élus, mesdames et messieurs les représentants du corps consulaire, mesdames et messieurs les représentants du Camp des Milles, Fondation pour la mémoire et l'éducation, mesdames et messieurs les représentants du monde politique, syndical et associatif, monsieur le représentant de la coopérative CPMM, cher Maxime, mesdames et messieurs les bénévoles des Amis de la Marseillaise, d'Ensemble pour la Marseillaise, du Mondial La Marseillaise à Pétanque, mesdames et messieurs les représentants des médias, chers consoeurs, chers confrères, chères lectrices, chers lecteurs, chers collègues bien sûr, merci à toutes et tous pour votre présence nombreuse. En cette journée nationale de la Résistance, quel plus bel honneur pouvait être fait à notre journal, fondé en 1943, dans la clandestinité, que l'inauguration d'une place à son nom devant notre siège historique, pris par les armes pendant l'insurrection de la libération de Marseille en août 1944, à un journal collaborationniste qui avait déshonoré notre profession en relayant la propagande antisémite et tous les mensonges de l'occupant comme du régime de Vichy. À cet instant, je pense à ceux qui nous ont précédés, Pierre Brandon, Léon Parenc, Malakri Egel, Jean de Bernardi, Julia Pirotte, Francis Écart, qui est mort ici même, recevant un éclat d'obus en gardant le journal. André et Rosette Remacle, les premiers rédacteurs du premier numéro légal. René Rougeau-Martin, Marcel Tomaso, dont je salue les enfants présents avec nous aujourd'hui. Leur engagement fut prolongé par Georges Righetti, Paul Biagini, Michel Montana et tant d'autres. Le grand cinéaste Henri Verneuil, le président de l'OM, Pape Diouf, le grand écrivain Jean-Claude Izot, ont tous été des plumes de la Marseillaise. Pour tout cela, pour nous, pour la Marseillaise, je vous dis merci, monsieur le maire, pour cette décision. Elle intervient un an après une autre décision qui avait été prise à Aix-en-Provence, le square La Marseillaise, à proximité du lieu de la naissance clandestine de notre journal, le 1er décembre 1943. J'avais alors remercié madame le maire d'Aix, tout en lui disant qu'on allait continuer de la critiquer. Bon, je crois que ça va être un peu pareil pour vous, monsieur le maire. Et pour autant, du fond du cœur, je vous le redis, merci. 82 ans après la fondation de notre journal, 80 ans après la capitulation nazie, face à celles et ceux qui, comme Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, considèrent qu'il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil de la Résistance, du Conseil national de la Résistance, notre journal répond présent. Né en 1943, dans l'élan de l'unification de la Résistance, la Marseillaise porte fièrement les valeurs du programme du Conseil national de la Résistance, pas simplement comme un héritage du passé, mais aussi comme un flambeau qui éclaire notre présent. Alors qu'un vent mauvais de haine, de guerre, de division souffle sur notre monde, alors que l'extrême droite, partout, ressort des poubelles de l'histoire, il y a urgence à se réapproprier le sens profond des jours heureux, le programme du Conseil national de la Résistance, qui est d'une très grande modernité, d'une très grande actualité. Comme lit l'éditorial de la Marseillaise du 8 mai 1945, je cite « Le fascisme, soyons-en sûrs, n'a pas désarmé. Il attend sa revanche et la prépare. Tant que nous n'aurons pas dans le monde entier extirpé ses racines, le danger subsistera. Du fond de leur tombe, nos camarades morts pour que vive la liberté nous dictent notre devoir, vigilance. » Le programme du Conseil national de la Résistance n'est pas qu'une condamnation morale de la barbarie nazie. C'est un projet de société fondé sur le progrès social et démocratique visant à faire disparaître les causes qui avaient permis au fascisme de croître. S'agissant de la presse, dont les résistants avaient pu mesurer le rôle fondamental, ce programme prévoyait d'assurer, je cite, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Plus de 80 ans après, dans un paysage médiatique toujours plus concentré et uniforme, la Marseillaise l'affirme. Cet objectif est essentiel pour le présent et l'avenir. Dans une France fracturée, dans laquelle les entrepreneurs de haine, de tout poil, cherchent à polariser le débat sur les questions identitaires, la Marseillaise réaffirme chaque jour, dans son traitement éditorial, la centralité de la question sociale. Notre indépendance des puissances d'argent fait notre liberté, mais aussi notre fragilité. Nous avons failli disparaître à plusieurs reprises si nous n'avions pas été sauvés par la détermination de nos lecteurs, que je veux remercier encore aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir, vous pouvez vous applaudir. En 2020, la précédente société éditrice a dû être liquidée et sans les implications des Amis de la Marseillaise, des salariés de notre journal et de leur syndicat CGT, la Marseillaise aurait disparu ou aurait été démembrée par des prédateurs qui prétendaient alors supprimer 80% des effectifs, la parution papier, bref, notre journal en somme. Nous nous étions fixés alors trois lignes rouges. Pas de licenciement, nous en avions trop connu par le passé. Pas de rétrécissement de notre zone de diffusion. Pas de changement de notre ligne éditoriale qui fait l'âme de notre titre. Sur ces trois points, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons progressé. Nous étions 49, nous sommes aujourd'hui 61 et près de 70 si nous additionnons nos forces à celles de Zébuline. Et je salue l'équipe de Zébuline qui est parmi nous, avec qui nous avons noué un partenariat gagnant-gagnant, qui nous a permis de les sauver de la disparition et de poursuivre le traitement d'une actualité culturelle indépendante sous forme hebdomadaire. Nous avons non seulement maintenu notre diffusion dans les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Hérault et le Gard, mais nous sommes revenus dans le Vaucluse pour le plus grand bonheur de nos anciens et de nos nouveaux lecteurs. Et il est de notoriété publique que l'on réclame la Marseillaise désormais au-delà. Enfin, sur notre ligne éditoriale, je crois pouvoir dire qu'elle s'est affirmée. Nous avons multiplié les enquêtes, les révélations, les débats, les initiatives éditoriales. Nous avons gagné en qualité. Depuis 5 ans, nous avons inversé des courbes qui étaient déclinantes depuis des décennies, celles de notre chiffre d'affaires et celles de notre lectorat. En 2024, nous avons augmenté de plus de 9% nos ventes en kiosque, tout en gagnant sur le plan des abonnements numériques. Quel signal de dynamisme et quelle joie de le partager avec vous aujourd'hui. Ces résultats, nous les devons à l'engagement des salariés du groupe La Marseillaise, que je tiens à saluer en ce jour, mais aussi à l'engagement de nos lecteurs. Vous pouvez les applaudir. Ces efforts doivent être prolongés pour atteindre nos objectifs et sortir notre journal de son état de trop grande fragilité dans lequel il perdure. Nous avons profondément renouveler notre lien avec notre lectorat, que nous souhaitons plus et mieux rendre acteur de l'actualité. Avec Balance ton taudis, nous avons contribué à la révélation de l'étendue du mal logement à Marseille et à la mise en sécurité. Merci, monsieur le maire. Et à la mise en sécurité de plus de 3000 habitants. Avec Le Vivant Surprend, puis plus récemment, L'Appel qui sème l'espoir. Nous avons été le premier dans le monde de la presse à publier un appel à préserver et développer la biodiversité dans nos territoires, signé par de nombreuses associations, tout en proposant une première page ensemencée qui a permis, mise bout à bout, de faire sortir de terre près de 2 hectares de fleurs des champs. Vous l'avez compris, nous tentons d'innover, de faire du journalisme et même un peu de poésie. Nous allons continuer d'innover, de créer des événements, de nous adresser à la jeunesse comme nous le faisons désormais avec la Marseillaise Breaking Cup. Nous allons investir dans une application tout en affirmant notre attachement au papier. C'est comme cela que nous concevons notre rôle, celui d'un journal de proximité, anti-fatalisme, régional et internationaliste, un journal de progrès, un journal qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, un journal engagé aux côtés du monde du travail, un journal qui défend la démocratie et la République, elles en ont bien besoin, un journal auquel on se réfère pour la qualité de ses informations et son honnêteté. La Marseillaise est aussi fragile qu'elle est libre, elle est un bien commun. Charge à chacun d'entre nous, d'entre vous, de l'aider à poursuivre sa route, à se développer, à se dépasser pour créer les conditions de sa pérennité. La Marseillaise, j'ai coutume de le dire, c'est un acquis social de la libération. C'est un combat, c'est aussi un espoir et une exception. une exception dans le paysage médiatique français. Nous mettrons toutes nos forces pour qu'elle perdure dans le sud de la France. Et je vous donne rendez-vous en septembre pour inaugurer cette fois nos nouveaux locaux qui sont derrière moi, ils prennent forme. Ils seront entièrement remis à neuf, ici à Marseille, mais aussi à Montpellier, signe supplémentaire de notre renouveau et de notre dynamisme. Vive la République, vive la France, vive la Marseillaise et vive la Résistance! Merci.
J'invite à présent Monsieur Benoît Payan, maire de Marseille, à prendre la parole.
Je n'imaginais pas que, à cet instant, réunis ici, sous un soleil de mai, ensemble, nous allions un jour inaugurer une place la Marseillaise. Monsieur le sénateur, monsieur le gouverneur militaire, mon général, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les consuls généraux, monsieur le président Léo Purguette, mesdames, messieurs, le 1er décembre 1943, la Marseillaise s'est levée avant l'aube avec une première, celle d'un journal qui était alors clandestin, engagé farouchement, délibérément et avec la force de ses convictions dans une bataille qui était une bataille de la vie contre la mort, de la lumière contre les ténèbres, de la liberté contre le joug des nazis. À ce moment-là, des femmes et des hommes engagés, décidés, ensemble, de reprendre en main leur destin, décider ensemble de récupérer à l'ennemi un journal devenu collaborateur. Au même moment, quelques instants après que les communistes eussent récupéré la Marseillaise, les socialistes reprenaient le petit provençal. Et à ce moment-là, ils étaient, et les uns et les autres, gaullistes, communistes, socialistes, unis dans un même élan pour la République, faisant fi de leurs différences. Et il serait temps aujourd'hui de se rappeler que ce que nous avons en commun, cette République, est tellement plus forte que ce qui nous divise. Au moment où le monde connaît des tourments, au moment où le corps social se fracture, au moment où les différences s'exacerbent en fonction des couleurs de peau, des opinions, des religions, des origines, il serait temps de se rappeler qu'ici, nous avons un seul et même élan patriotique autour d'idéaux qui nous rassemblent. Liberté, égalité, fraternité. Regardez cette une de la Marseillaise, cette première une qui nous disait, sous le bleu, le blanc et le rouge, Marseille est libérée. Et la photo du général de Gaulle nous emportant dans la nécessaire bataille de la vie contre la mort. Marseille était libérée par les siens, par les francs-tireurs partisans, par la main-d'œuvre immigrée, par la résistance tout entière, par les forces françaises libres, par l'armée d'Afrique, les gaullistes, les socialistes, les communistes et tous ceux qui croyaient aux valeurs de la République, par ceux qui croyaient à la grande idée de liberté, de démocratie et de résistance face à toutes les tyrannies. Ce matin-là, au son des clairons, répondit la voix des crieurs de rue qui, pour la première fois, s'est poumonnée dans toute la ville pour vendre la Marseillaise. Ce matin-là, Marseille était une fête. Alors aujourd'hui, à l'heure d'inaugurer cette place qui portera le nom de la Marseillaise, devant votre siège historique, héroïquement gardé par des femmes et des hommes sur les toits, aux fenêtres, prenant les armes au péril de leur vie, et les femmes aussi, prenant les armes au péril de leur vie pour défendre non seulement leur journal, mais pour l'idée qu'ils se faisaient de la liberté et de la démocratie. Je veux que nous pensions à eux et que nous leur rendions hommage. Ici étaient postés ceux qui écrivaient la Marseillaise. Ils étaient à l'imprimerie, pleins d'encre. Ils étaient correcteurs, imprimeurs, journalistes. Ils étaient militants de l'autre côté de la rue, les mêmes qui avaient d'autres idées, mais qui y croyaient, faisaient la même chose. Dans les rues adjacentes, des résistants, je vous le disais, des étrangers, des apatrides, ceux qui aujourd'hui sont d'ailleurs pointés du doigt parce qu'ils n'auraient pas la bonne nationalité, qui sont venus mourir pour l'idée qu'ils se faisaient de la France. Libérez Marseille, célébrons-les. Et donc oui, la Marseillaise est un symbole en France de liberté de la presse. Parce qu'elle est née, je vous l'ai dit, d'une conviction et d'un espoir, d'une volonté de paix et d'un désir de liberté entre les peuples. Tu disais, Léo, tout à l'heure, qu'elle est patriote, internationaliste. Elle est profondément... Elle est marseillaise. Elle est profondément attachée à l'idée de paix et de démocratie. Et elle s'est, tout au long de son histoire, toujours trouvée aux côtés de celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Des sans grades, des sans noms. Elle s'est toujours mise du côté de ceux qui souffraient face à l'antisémitisme, face au racisme, face à la volonté de division. Elle s'est systématiquement élevée et je voudrais qu'on lui rende hommage. Applaudissez la cohorte de journalistes, applaudissez la chaîne ininterrompue de ceux qui ont porté haut les couleurs de la liberté. Et tu as eu raison, et vous avez eu raison, Monsieur le Président, de le répéter, la liberté de la presse n'est pas un acquis. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a que des combats. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a que des victoires. Et elles sont toujours précaires. Et il n'y a qu'à regarder ce qui se passe actuellement pour voir le service audiovisuel public attaqué de toutes parts, les titres libres attaqués de toutes parts par celles et ceux qui voudraient mettre au banc et faire taire toute idée différente, contraire, divergente, anachronique, analogique, qui prendraient des positions qui déplairaient parce qu'elles ne sont pas dans l'air du temps. Eh bien, bravo. Bravo à vous pour ces batailles ininterrompues, parce que la presse et les journaux sont en réalité le miroir de notre société. Et quand la presse va mal, c'est que la société va mal. Quand la presse déraille, c'est que la société déraille. Alors accrochons-nous et battons-nous pour que vive le service public de l'audiovisuel, la télé de notre service public, la radio de notre service public, pour que vivent des titres indépendants comme la Marseillaise, pour que vivent aussi les journalistes, quels que soient les journaux dans lesquels ils écrivent, pour leur liberté. Et il y en a à Marseille, et je suis fier de ça. Et ils sont la majorité, et je suis fier de ça. Soyons attachés à ça. Soyons arrimés à cette liberté. Je veux, enfin, pensez à celles et ceux qui ont payé du prix du sang le fait que nous soyons ici aujourd'hui. Ils ont payé pour que nous soyons libres. Ils sont morts pour que nous soyons libres. Savent-ils que nous sommes là? Croyaient-ils au ciel ou n'y croyaient-ils pas? Savent-ils qu'aujourd'hui nous les célébrons? Je ne le sais pas. Mais grâce à eux, nous sommes ici. Grâce à ceux qui se sont sacrifiés et qui ont sauvé une certaine idée de la liberté. Grâce à ceux qui ont fondé ce journal. Grâce à ceux qui ont pris les armes. Grâce à ceux qui ont passé des mots. Et nous pensons tous à des gens que nous avons connus. Ces jeunes filles à bicyclette qui, à 14 ans, passaient des mots secrets, passaient des articles sous le manteau. Ces jeunes garçons de 15 ans qui, prenant tous les risques pour une certaine idée de la liberté, quelquefois, perdirent leur vie. C'est à eux, et face à cette union sacrée, que nous devons nous incliner, que nous devons nous rappeler. Parce que se rappeler n'est pas la nostalgie. Se souvenir du passé nous permet de comprendre le présent et d'éclairer l'avenir. Et c'est pour ça que nous avons choisi à Marseille d'honorer le passé, de ne jamais, jamais oublier ceux qui se sont battus pour notre liberté. Nos soldats, nos résistants, ces femmes et ces hommes, ces apatrides, ces Français, ces étrangers, qui ont permis que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Permettez-moi de remercier, évidemment, aussi, et je veux qu'on pense à eux parce que nous avons parlé des journalistes, de ceux qui ont pris la direction, les rédacteurs en chef. Je veux parler des ouvriers qui, dans ce journal, ici, dans les rotatives, qui sont encore visibles, ces rotatives à l'odeur d'encre et de suie, à l'odeur de la souffrance et de l'espoir, ces rotatives qui ont vu des générations d'hommes, d'ouvriers, chaque jour, se lever dans la nuit pour faire que ce journal vive. Pendant des décennies, ils ont été le bras armé, la cheville ouvrière de ce journal. Parce qu'un journal, il est fait de ses rédacteurs, de ses journalistes, de ses ouvriers, de ses secrétaires de rédaction. Et je veux qu'on pense à eux et qu'on applaudisse tous ces héros anonymes. Rappelons-nous de tout ça. Je vais en terminer parce que vous avez compris que j'étais largement sorti de mon discours et que j'aurais pu, évidemment, encore en parler beaucoup, mais je voudrais vous dire d'abord que je pense à ceux qui sont partis récemment, à mon camarade Digne, à mon camarade Kerr, à ceux qui ont fait vivre le journal pour une certaine idée de ce qu'était le progrès. Ils n'ont jamais rien lâché, ils ne m'ont jamais épargné. Et c'est à ça qu'on voit la valeur d'un journaliste. Ils n'ont jamais abdiqué, ni les uns, ni les autres. À vous toutes et à vous tous, qui avez un jour travaillé ici. À vous toutes et à vous tous, qui continuez de vous battre pour la Marseillaise. À vous toutes et à vous tous, du Mondial La Marseillaise, en partant par toutes les initiatives. Je veux vous dire merci. Merci d'exister. Merci d'avoir résisté. Merci d'avoir ouvert un chemin. Merci de ne jamais avoir baissé les armes au sens propre comme au sens figuré. La Marseillaise est un journal de paix et de combat. Et donc nous pourrions y voir là, quelque part, la confrontation de deux idées antagonistes. Non, je ne le crois pas. Les combats que la Marseillaise a menés étaient des combats pour la liberté et la justice, des combats pour la paix des hommes, et elle continue de le faire. Et dans l'actualité récente, et sans aucune concession, elle s'est levée face à toutes les agressions dans ce monde. Elle continue de se lever face à toutes les injustices de ce pays. Elle ne recule jamais sur sa ligne. Et c'est à ça, et je parle sous le contrôle d'ailleurs du gouverneur militaire, mais c'est à ça qu'on reconnaît le courage. On ne recule pas devant la ligne, on continue. Eh bien, mon cher Léo, permets-moi de te dire, et je te demande de le porter et de t'en faire le réceptacle. Sans la Marseillaise, sans ses lecteurs, sans sa cohorte de journalistes, les morts et les vivants, Marseille ne serait pas tout à fait Marseille, parce que nous sommes une ville faite de nos différences. Sans cette myriade de pensées, de destins et de communautés, nous ne serions pas ce que nous sommes. La Marseillaise s'est élevée à chaque fois que c'était nécessaire.
Voilà, ça recommence. Rachid Taha sur les ondes de Radio Gala 88.40. Dans un moment, on va écouter l'entretien qu'on a réalisé il y a de cela 8 ou 10 ans avec Nordin Ouldali.
C'est le remède des hommes civilisés. Quoi l'on garde, il prospère. Pendant que l'on regarde ailleurs. Quoi l'on garde.
J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai fait cette chanson, pourquoi je vous avais écouté cette chanson. Voilà, ça recommence. Vous allez comprendre. Portrait de Nordin Ouldali, l'enfant de Bab El-Oued et qui a fait avancer le foot palestinien, je dis bien, il était entraîneur de Palestine, l'ex-algérien de la Palestine, ouais, on dit l'ex-algérien de la Palestine, évoque pour l'émission Haraga sa mission et les innombrables difficultés auxquelles il doit faire face. Aujourd'hui, Nordin, il est à la tête de la sélection du Yémen. Il se confie au micro de Radio Galère. Écoutez bien notre Nordin Ouldali.
exerce la fonction de directeur sportif de club sportif d'Herbel, un club qui a ses racines dans les cités d'Herbel et qui a pris de l'ampleur, ça fait les 15 dernières années, où il a été créé, ça fait 15 ans de ça. Actuellement, il a placé des équipes au niveau d'Elix, ce qui est très important dans la région où nous sommes. Et j'exerce aussi la fonction d'entraîneur des 18 ligues. Et aussi, je suis préparateur physique de toute l'association. Et auparavant, j'exerçais ici en France et en Algérie en qualité d'entraîneur ou d'éducateur ou d'entraîneur adjoint. Mon parcours professionnel a commencé en Algérie avec une formation de technicien supérieur en sport que j'ai faite à Alger. Et j'ai exercé dans des petits clubs d'Alger, des petits clubs, je vous cite entre autres Bouzaria, El Biar, et aussi j'ai fait un passage à l'US Chaouia, qui était à un moment donné au sommet de l'élite du championnat algérien de football, où je me suis occupé d'entraîner les juniors, et aussi j'étais dans le staff technique des seniors avec monsieur Charef. Et après cela, j'ai exercé aussi la fonction d'entraîneur senior de club de Climat France d'Alger. Et depuis, je suis venu en France et j'ai commencé mon parcours dans un club du 8e arrondissement de Marseille, c'est le club Union Sportive du Rouet, où j'ai eu la chance et l'occasion d'encadrer des jeunes et de faire un projet sportif avec cette association. Formation de débutants jusqu'à de 15-18 ans. Et entre-temps, j'ai une sollicitation de la part de M. François Bracci, ancien international et de l'Olympique de Marseille, qui m'avait sollicité d'entraîner avec lui en Algérie. Donc j'ai eu un passage avec lui au CS Constantine, qui évoluait en deuxième division. Avec le travail que nous avons effectué, nous avons pu remonter en première division. Après, je suis revenu ici en France et après il y avait une autre aventure avec le Mouloudia d'Alger, le grand Mouloudia, le club doyen algérien, où nous avons aussi effectué après une sollicitation de M. Bracci, j'ai exercé aussi la fonction d'entraîneur adjoint dans son club, avec qui nous avons gagné une Coupe d'Algérie. Nous avons aussi placé ce club dans le championnat pour disputer un championnat Champions League arabe. Et depuis, je suis revenu et j'exerce, comme je vous disais auparavant, fonction de ce directeur sportif au club Sporting Club d'Herbel, où mon rôle à moi, c'est d'encadrer les jeunes, de coordonner les actions du club sur le plan technique. Et sur le plan, on essaye de placer les équipes au niveau national, ce qui est dur par rapport aux moyens et par rapport à la structure du club.
Ouldali Nourdine, est-ce que vous avez eu une formation d'entraîneur de football ici en France?
Ici, j'ai suivi le cursus de brevet d'État, premier degré en sport, donc j'ai des diplômes fédéraux. Et j'ai aussi le tronc commun. Et là, je suis en stage pour l'obtention du premier degré, brevet d'état premier degré. En parallèle, j'ai fait des formations continues. Je m'intéresse à tout ce qui se rapproche et rapporte au football. Donc, j'ai fait des stages de préparation physique à Dijon. Aussi, je m'intéresse aussi à tout ce qui est préparation mentale. Préparation psychologique qui se rapporte au domaine du football en suivant des séminaires et des colloques qui se rapportent à ce sport. Avec la formation déjà acquise en Algérie, parce que j'ai l'équivalent d'un bac plus 3 en entraînement sportif. Et aussi je m'attache aussi à mon vécu sportif, où je peux donner un plus à ces jeunes et à ces moins jeunes par l'éducation, par le sport et par tout ce qui se rapporte à la société.
Ouldali Nourdine, et du côté social dans les quartiers, vous faites quoi?
En qualité d'entraîneur, nous ne pouvons pas négliger le côté social, parce que nous vivons dans une société où il faut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous. Et dans le côté football, les jeunes que nous encadrons en sportif des clubs d'Herbel viennent de différents horizons de quartier de Marseille. Donc comme le club, le quartier d'Herbel déjà, il est considéré entre parenthèses un quartier sensible. Nous essayons de faire avec l'apport des dirigeants qui sont aussi issus de ce quartier de allier le côté sportif au côté social, mais nous négligeons pas le côté performance parce que nous avons des équipes qui sont classées quand même en niveau ligue, et aussi nous avons aussi beaucoup de jeunes qui viennent de quartier nord de Marseille, et là-dessus nous faisons un travail concernant l'intégration de ces gamins ou de ces moins jeunes par le football, et nous essayons de les orienter, même s'ils ont pour la plupart un échec scolaire, et ils se réfèrent au football comme un moyen de développement ou qu'un moyen d'intégration, on va dire. Et on a beaucoup de jeunes qui rêvent d'en faire un métier. Et c'est des jeunes qui ont des qualités, qui ont raté leur vocation en qualité de footballeur à niveau professionnel. Et on essaye de les intégrer plus ou moins des divisions un peu importantes, style CFA ou DH, où les jeunes peuvent, entre parenthèses, toucher de l'argent et à faire de ce moyen de plaisir un moyen professionnel, même s'ils ne sont pas reconnus professionnellement.
Est-ce qu'on peut savoir le fruit de votre formation envers de ces jeunes?
Bon, le fruit, à mon avis, il est quantitatif et qualitatif. Alors, si je parle des clubs que j'ai encadrés ici à Marseille, à mon avis, j'ai apporté, par exemple, au club où j'étais à l'US Rouen, où j'ai exercé pas mal d'années, entre 8 et 10 ans, j'ai essayé d'apporter que même dans le football et dans toute entreprise ou association, il faut déjà structurer, organiser. Après, les résultats, ils viennent avec le travail, l'obligation, le courage et tout. Alors, en ce qui concerne sur le plan technique, nous avons quand même réussi à placer des jeunes dans des centres de formation et aussi à faire une bonne préformation pour les jeunes que nous avons pris en charge entre 6 et 12 ans. Actuellement, tous ces jeunes-là font le bonheur des équipes Ligue à Marseille où ils ont intégré le centre des centres de formation et de haut niveau. Et actuellement, au Sporting Club d'Herbel, j'essaye aussi avec mon expérience et en côtoyant pas mal de professionnels d'ajouter une touche professionnelle à cette structure-là qui représente, c'est l'une des meilleures structures à Marseille sur le plan formation, à savoir que le club place chaque année une dizaine de gamins dans des centres de formation, soit à Sochaux, soit à Toulouse, soit à Auxerre, soit à Monaco. Donc notre rôle à nous aussi, au niveau de la préformation, d'essayer d'en tirer un maximum de ces jeunes pour les placer dans des centres de formation et d'en faire aussi peut-être des futurs Zidane, des futurs Thuram ou des futurs professionnels.
Vous, en tant que technicien, comment vous voyez votre rôle d'entraîneur ou d'éducateur?
La réalité, c'est-à-dire, nous, on veut allier le social et l'éducation et le football. Et comme on est des entraîneurs, donc c'est notre priorité à nous, c'est d'éduquer sur le plan technique et tactique, physique, donc la pratique du sport. Mais avant d'aboutir à un résultat positif, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut pas négliger, à savoir le rôle ou bien la situation sociale, éducative du petit qui vient s'entraîner chez nous. Nous constatons que, personnellement, je constate que nous faisons un travail énorme là-dessus. Donc des fois, ça nous oblige à occulter, à mettre le côté sportif en seconde position. Or, notre rôle à nous, c'est de préparer une équipe pour qu'elle soit compétitive un dimanche ou pour la saison. Alors, pour cela, j'ai beaucoup de remarques ou beaucoup d'observations à émettre, surtout dans le fonctionnement le fonctionnement ou le rôle qui nous est demandé. Déjà, on ne vient jamais nous solliciter parce que je pense que nous, on est les premiers acteurs sur le terrain, et je pense tous les entraîneurs, les éducateurs comme moi peuvent être une force de proposition pour le développement du sport et l'émancipation de ces jeunes-là, surtout en ce qui concerne des jeunes de 15-18. Là, je pense dans la société où je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui concernent ces jeunes-là. Donc, on ne nous sollicite jamais pour donner notre avis déjà. Donc, c'est comme si on est des animateurs, des animateurs de dimanche ou quoi. Or, le rôle, notre rôle à nous, il était, je pense qu'il est très, très important dans la mesure où on s'occupe, on connaît exactement les problèmes que rencontrent les jeunes. Et par cela, déjà, on essaie de résoudre les problèmes déjà au courant de la semaine. Après, au bout d'une année, on sait à quoi nous en tenir sur les problèmes de ces jeunes-là. Et je pense que même les associations comme nous, je parle en l'occurrence de Sporting Club d'Herbel, peut être une force de proposition, même pas sur le, pas uniquement sur le plan sportif, même sur le plan social. Je citerai le rôle que fait actuellement l'un de nos responsables, à savoir M. Draou Chaïb, concernant les jeunes des quartiers d'Herbel, voire d'autres quartiers de Marseille. Je peux vous citer le quartier de la Cayolle ou du Bousquet Néréide, et à savoir aussi d'autres quartiers, quartier nord, à savoir Castellas, La Viste et tout. Donc moi j'observe qu'il fait un travail énorme par rapport à ce, non pas pour lui jeter des fleurs, mais quand on reconnaît les mérites de chacun, il faut les dire. Donc voilà, et aussi par rapport à l'administration sportive, j'espère qu'ils doivent nous voir en qualité de partenaire et pas d'adversaire, parce que le rôle est commun, les résultats doivent être communs aussi, à savoir l'émancipation des jeunes, et sur le plan technique, et essayer de faire sortir des talents pour le championnat français, éventuellement pour l'équipe de France.
Vos projets actuellement ici à Marseille?
Alors, le projet à court terme, c'est de gagner le prochain match. Mais bon, avec la structure où j'exerce ma fonction, nous avons pas mal de projets. Nous comptons développer pas mal d'actions, je vais vous citer pêle-mêle. Le développement du sport féminin par exemple, et aussi parce qu'on est dans une structure, dans un quartier où il y a vraiment c'est un quartier qui est composé entre 5000 et 6000 habitants, donc c'est on va dire entre 35 et 40% de jeunes, donc ça on le sait, donc on essaye déjà de maintenir ce qu'on a. Et le projet à moyen terme, si vous voulez, là, je compte avec la structure du club créer un centre de préparation physique. Et comme entre autres, j'ai cette étiquette là où j'ai la casquette de préparateur physique, donc on essaye de créer ce centre-là de préparation physique, non pas uniquement pour le football, c'est pour encourager aussi d'autres jeunes qui ne trouvent pas aussi leur compte au football de se mettre à la disposition d'autres sports, style ou l'athlétisme, ou le handball, ou les sports de combat. Donc nous, à partir de cela, on essaie d'orienter les petits. Comme ça, il ne faut pas qu'il y ait un vide chez les enfants. Il faut je pense, moi, ça fait 30 ans que je pratique ce sport, et ça fait 15 ans que je fais comme métier. Je pense que le sport, c'est un moyen de développement humain, peut représenter un moyen de développement humain. Et aussi, le projet aussi au club aussi, nous allons essayer les 3 ou 4 années à venir à maintenir déjà ce qu'on a comme division au niveau ligue, et à moyen terme, c'est de faire accéder les équipes au niveau national, ce qui est très très important pour surtout le quartier et surtout à Marseille, parce que nous dépendons nous vivons pour Marseille, et de placer des équipes au niveau national. Et aussi de maintenir la performance sportive. Et voilà, et avec le responsable aussi du club, nous comptons aussi créer, mais on n'a pas les. Il faut trouver un moyen législatif là-dessus, réglementaire là-dessus, c'est d'essayer de créer un centre de formation parce qu'avec les structures qu'on a, avec le nombre de petits qu'on a, avec les qualités que l'on a, nous pouvons faire quelque chose pour le football français.
Vous avez parlé du football féminin. Comment il se porte ici à...
Vous savez, aux États-Unis, c'est un sport, on va dire, un sport national pour les filles. En France, on commence à s'y intéresser et à le développer. Bon, pour ma part, j'ai au passé, ça fait 5-6 ans, de créer une structure sur une catégorie féminine où ça s'est très très bien passé. Donc pourquoi pas dans ce club où je suis. Bon, parce que le sport, je pense, le sport féminin et le sport masculin, il est, à mon avis, il est différent. Parce que bon, pour ce qui est des filles, elles sont plus matures. Elles peuvent avoir. Il y a plus de maturité, c'est une maturité précoce par rapport aux garçons. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire aussi et donner la chance aussi à filles de pratiquer un sport. Pourquoi le football n'est pas uniquement pour les garçons, ça peut être aussi pour les filles. En plus de ça, ça peut être un vecteur ou un moyen de développer le football à travers le sport, le football féminin. On ne va pas se fier uniquement au football masculin, parce que aussi structurer aussi le football féminin peut nous donner des idées, concernant on peut structurer autrement, on peut se structurer autrement par rapport aux garçons. Ça peut être une source une source d'inspiration par rapport à ce qu'on faisons avec les garçons. Alors moi qui viens de l'autre rive de la Méditerranée, donc issu d'Alger, et en confrontant mes idées avec toutes les personnes que j'ai rencontrées à Marseille, qui viennent pratiquement de diverses cultures, de divers horizons. Donc ça m'a fait qu'enrichir d'abord ma culture et de découvrir aussi ce qui se fait aussi chez les autres. Par exemple, si je vous dis, dans ma structure, il y a des entraîneurs qui viennent du Sénégal, originaires du Sénégal ou des Comores, de la Tunisie. Ça nous fait, à mon avis, ça nous fait une force d'exécution, ce qu'on est sur le terrain, parce que déjà, on est solidaire pour le club, et aussi, chacun se nourrit de sa propre culture pour avancer, et aussi de sa propre...
Voilà, l'émission tire à sa fin. Il est 5h48 sur les ondes de Radio Galère au 88.40. Donc, on vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de, bien sûr, 16h, avec la seconde partie, la deuxième partie.
Également les joueurs, c'est des joueurs qui viennent, en fait, qui sont nés en France, certes, mais qui viennent d'une culture, des cultures différentes. Il y en a un qui est ghanéen, l'autre est algérien, l'autre il est sénégalais, l'autre est... Donc ça fait une force de cette équipe. Et
بهجة بيضة مدهول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبين يا عاصمة
بهجة بيضة مدهول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبين يا عاصمة
بالراس المول القواس والجنينه
عرسى قبلت البحور واسمك زرق ديما باب جديد زوج عيون من الكانتيرا للرميلة وفريزي القاع الصور مسيد الدليا القديمة باب الواد فيها الهول وباب عز ونرزينا باب الإله محلول حتى نوصل ضربة حميمة نحي تقف وسحور على هذا البلاد الشينا سيدي ربي الغفور نلحق للباب الخيمة
بهجة بيضة مدهول ورسمك عنده قيمة راني بعد لك مرسول وليني يا عاصمة
Restez à l'écoute, il est 5h51 minutes avec ce psychodébat animé par Victor Hugo Espinoza. Bonne écoute et ciao ciao ciao.
الريعة بنعكنون البيار عالي علينا صالون بيقو بالكور طرف العلجة وليمة الأسم فيك مشهور يزيدي نحي الغبينة يا بلادي عليك منظور يلو كان قطع بسفينة